vous avez raison quand vous dites que c'était pas violent le cinéma que je faisais avant en Union soviétique, mais c'était pas violent jusqu'aux frontières de permis. Ça c'est pas si simple que ça parce que je pouvais être violent, mais en espérant encore et encore, je me suis trompé. En espérant que ce film peut arriver jusqu'au spectateur. C'était Mère Chanteur ou La Chute des Feuilles ou Pastorale, mais c'était les films dont le fond était l'existence des brigands. Ils étaient tous à leur tour punis, interdits, filtrés, tout ce que vous voulez, ce qui finalement a abouti par le fait que j'étais obligé de venir faire mes premiers films français en France. Ce qui n'était pas facile non plus, parce que en France, j'ai découvert aussi bien qu'ailleurs l'existence de la censure. Excusez-moi, mais c'est comme ça.
Non, mais on le croit tout à fait. Mais justement, moi, par rapport, par exemple, je pense au Mère Chanteur et à Brigand, le rapport au temps. Je pense que justement, le fait que le personnage dans le Mère Chanteur arrive toujours en retard, qu'il soit déphasé, c'est un peu, tu vois, comme Mary Langdon ou Buster Keaton, c'est-à-dire des personnages qui sont inadaptés au monde. Dans le traitement du temps, dans le rapport au temps, on retrouve quelque chose qui, bon, dans Brigand, c'est une parabole comme ça, on recule dans le temps pour que le clochard puisse s'évader du monde qui est autour de lui, enfin le SDF. Et je crois qu'il y a quelque chose de commun dans la confrontation avec le réel, c'est-à-dire que ce décalage dans le temps permet de se confronter et de faire la critique d'aujourd'hui.
Vous voyez qu'on est tous toujours en retard là, ou on imagine qu'on est toujours en retard. Peut-être tous nos ancêtres étaient à leur tour en retard aussi. Peut-être tous les êtres humains sont en retard parce que tout simplement parce que on connaît quelque chose, on a entendu parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est notre passé. On imagine que dans ce passé, on pouvait être autant. Parce que ce passé, on n'a pas vécu. Mais si on vivait à l'époque de l'Inquisition, on pouvait tout à fait bien imaginer qu'on n'est pas né à notre temps, je pense. Comme on peut regretter toutes ces vies-là, des gens qui ont passé, je sais pas. Comme les miens, mes proches, là, par exemple, une vingtaine, une trentaine d'années dans Goulag, au fin fond de Sibérie. Ou les autres, là, par exemple, Monsieur Sakharov, qui a inventé la bombe H, et après il a commencé à se repentir, il est devenu dissident, il n'était plus, il pouvait être la nomenclatura, mais c'est pas. C'est pas les forces majeures qui ont réveillé en lui quelque chose qui a commencé à le démanger. Il a compris que par ses actes, il a renforcé cette saloperie de communisme. Il a prolongé leur existence. Et après, il a commencé à se répandre et il a commencé à lutter contre le système. Tout ce qui lui a coûté une dizaine d'années quelque part à fin fond de Russie. En exil. Un monsieur pas égal, pas toujours égal, pas toujours clair, parce que vous voyez que c'est un. Si j'ai commencé par la mathématique, là, je peux, en connaisseur, je peux vous dire que c'est la pensée et l'analyse et l'esprit d'un mathématicien, c'est une maladie physiologique. C'est une maladie physiologique, on ne peut pas s'en priver là. On continue à penser malgré tout. Et quand il a fait cette bombe H, c'est connu comme fait, Il est tombé à genoux devant Khrouchtchev en le suppliant de ne pas faire l'essai. Khrouchtchev lui a dit, écoutez, mais il ne fallait pas inventer. Maintenant, chacun de nous a des fonctions différentes. Moi, je suis un chef d'État. Si vous me proposez une arme puissante, ça sera tout à fait acte criminel de ma part vis-à-vis à mes fonctions de ne pas l'utiliser. Mais vous, il ne fallait pas l'inventer. Je raconte des différents. Il y avait les communistes idéologiquement tout à fait romantiques qui ont terminé leur vie étant fusillés, Mais moi, je ne pense pas franchement que Boukharine ou Rykov ou Kamenev, eux, ils pouvaient être romantiques. Franchement, je ne pense pas. Mais comme ça, relativement romantique, il était.
Si on voit le cinéma, par exemple, dans les films de Davchenko, La guerre, je pense à Chors, je pense au Lit des années de feu, par exemple. Il y a le chaos, à mon avis, dans ces deux films, mais c'est un chaos lyrique, c'est-à-dire que la guerre est horrible, mais il y a quelque chose d'extrêmement fort lyriquement. Chez vous, par exemple, dans Brigand, il y a quelque chose de plus au scalpel, de plus froid. Alors, j'aimerais qu'on en parle de ça, parce qu'en plus, je sais que vous avez été élève de Davchenko, par exemple, il me semble. D'où ça tient, justement? C'est que l'horreur de la guerre, ce que Davchenko, par exemple, pourquoi ces deux conceptions de la guerre et de la barbarie?
Vous voyez que Davchenko, justement, il appartenait à un couche des intellectuels nouveaux venus. C'était pas Rachmaninov, c'était pas Stravinsky, c'était un simple paysan qui a eu du coup la possibilité de commencer à pratiquer le métier traditionnellement défendu pour ce couche-là. Et seule solution pour je sais pas, moi j'ai pas une autre explication que ils ont vraiment cru. Romantique comme il était, ils ont du coup cru que le monde à partir d'aujourd'hui va changer pour toujours. Et que c'est vraiment un moment décisif. Et cette fois-ci, l'être humain va sortir de tous ses péchés et vers un avenir radieux. Alors, l'avenir radieux, c'est un truc jacobin, c'est ancien, c'est tue ton frère, tue ton voisin, tue ton proche parce que les enfants seront heureux. Mais à peu près, je simplifie la formule, mais c'était comme ça. C'est le mélange d'un moine et d'un tortionnaire en même personne. Là. Ce qui était, je ne sais pas, Marat, Robespierre, Danton, toute cette compagnie-là, qui s'entrecoupaient la tête autour de rôle. Mais qui voulait nettoyer le pays pour le bonheur de qui? De nous. On est très heureux là aujourd'hui. Ils ont un peu. Est-ce que ça voulait les tas de larmes et tas de tortures? Est-ce que vous ne pensez pas que l'esprit de Versailles règne toujours à l'Élysée? Aujourd'hui, non, tout simplement, je vous demande, ou à chaque boîte de production, à chaque boîte de. Chez Christian Dior, chez Nina Ricci, chez Lanvin, partout il y a l'esprit de Versailles. Mais il y a la cour, il y a les courtisans, il y a Sa Majesté. Quelque part, qui décide tout. Mais ça c'est tellement simple et banal. Et en plus, On dévie un peu la réponse à votre question,
Non,
mais...
la raison pour laquelle je posais cette question, c'est quand vous disiez que vous ne pensiez pas que Boukharine Kamenev était romantique, je pense par exemple que la différence de la vision de la guerre chez Avtchenko et dans Brigand, c'est qu'effectivement chez Avtchenko, il y avait la croyance en l'avenir radieux, le lyrisme, je trouve magnifique chez Avtchenko par ailleurs, mais parce que c'est à mon avis un grand artiste, mais qu'effectivement lui il croyait en, alors que vous, vous êtes maintenant un cinéaste qui pouvait faire le bilan de. Et donc votre vision de la guerre a hérité quand même de. Parce que vous avez un esprit analytique aussi.
Vous savez que je ne suis pas tellement d'accord parce que le contemporain d'Ovchinnikov était Monsieur Bulgakov. Hein? Monsieur Bulgakov qui a fait une analyse de la vie dont il était témoin, parfaitement méchante et parfaitement froide, si vous voulez. Ouais. Les romantiques comme Maïakovski ou comme Danjelko, ça existait, c'est propre à chaque révolution, comme Allons enfants de la patrie, et la mélodie qui s'applique, c'est tout à fait enchantant, et c'est tout à fait romantique, et c'est tout à fait, ça vise tout à fait l'avenir. Maïakovski, c'était un des meilleurs poètes qui existait à l'époque, là. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il s'est suicidé. À un moment donné, à 37 ans, ça arrive le phénomène que vous commencez à voir clair là. Alors, Dojenko, à la fin de sa vie, dont j'étais témoin, était tout triste et tout désespéré. Alors, qu'au début, quand il avait 30 ans, il était plein de force, il était au milieu de la construction de cet avenir radieux, et personne ne lui empêchait, et surtout son éducation ne lui empêchait pas du tout, de voir tout en rose. Ce qui n'était pas du tout le cas d'Akhmatova, la grande poète russe, ou de Tsmarina Tsvetaeva, la grande poète russe qui vivait à la même époque et qui, dès le début de la révolution, était tout à fait désespérée, sans parler de Goumilov et sans parler de Bounine qui a émigré en France. De toute façon, vous voyez que cette vision très très séductrice de monde à venir et de moments décisifs dans le changement. Bon, ça c'est tout à fait humain et tout à fait compréhensible. Nous qui ont vécu le période le plus sale de communisme, parce que c'était déjà le communisme appliqué. C'était le conformisme de tous les côtés. L'installation de la nomenclatura. Hein. Ça, pour ceux qui savaient lire et écrire, c'était tout à fait clair que c'était Versailles, carrément.
Parce qu'il y a une forme de nihilisme ou de désespoir qui est dans Brigand, mais qui est médiatisée justement par la comédie. Il y a des aspects tellement burlesques dans le film, heureusement, parce qu'en plus, il y a quand même un amour de l'humain chez vous qui fait que c'est supportable, sinon le film serait insupportable.
Ouais, si on est vraiment pessimiste, on fout rien. Ça signifie que même le dialogue qu'on mène aujourd'hui, c'est le dialogue sur un objet fait par quelqu'un, notamment par moi, cette fois-ci. Mais c'est un objet qui attire votre attention, justement parce que on n'est pas désespéré du tout. Si on était désespéré, en ce cas, ça sera très très malhonnête de faire quelque chose et d'en profiter. Mais ça signifie aussi une chose que dans les œuvres comme ça, où il n'y a pas un personnage positif, attirant, charmant, adorable, hein, on peuple cette œuvre-là par les personnages répugnants, parce que nous, on peut observer ce truc-là ensemble. Et comme il y a nous et que comme il y a eux, ça veut dire que ces deux races humaines coexistent toujours, les races de Cain et les races d'Abel, et on sait parfaitement bien à quoi se référer. Ça signifie une chose, qu'on continue de vivre parmi nous, amicalement et honnêtement. En tout cas, on essaie.
Aucun personnage positif, sympathique, mais il y a un des personnages centrales quand même qui s'appelle, il s'appelle Canou, qui quand même, sa solution, c'est une espèce de contemplation, c'est-à-dire il s'assoit et il picole, il regarde passer le char de l'histoire.
Bon, picoler c'est un métier, c'est pas si simple que ça.
Non. Mais ça, c'est devenu un métier.
Picoler, c'est pas, ça signifie pas du tout se saouler la gueule en déboussolé. Picoler, il faut savoir avec qui et il faut savoir quand. Parce que, par exemple, si vous êtes désespéré, si vous êtes triste, si vous êtes de mauvaise humeur, il vaut mieux pas boire du tout. C'est la règle qui règne en Géorgie. On peut boire que avec les gens agréables. De préférence avec les gens que vous connaissez déjà et dont les numéros inattendus ne vont pas vous choquer. Et en plus, il faut boire toujours étant en bonne humeur. Boire en solitude, c'est tout à fait exclu parce que ça amène à la tristesse, au vide. Alors, notre personnage, qui est en même temps ex-cagébiste, mais on ne sait pas c'est lui ou c'est son fils. On ne sait jamais, mais il ressemble à tout le monde qui a vécu avant lui. Peut-être c'était dans le temps un roi, mais c'est lui ou c'est pas lui, on ne sait pas. Mais on sait parfaitement bien qu'il ressemble à ce monsieur-là, dont le portrait il retrouve à la fin du film. Et lui, il boit, mais si vous voyez bien, il boit tout à fait correctement, il sait chanter. Si quelqu'un sait chanter, ça signifie qu'il n'est pas si perdu que ça. Il sait chanter, en plus il sait chanter, notamment dans là où il chante, il sait chanter à 2-3 voix. Et le chant polyphonique, ça signifie une chose, que chacun chante pour soi, mais ensemble ça sonne bien. Et quand vous parlez de savoir boire, moi par exemple, je connais la méthode la plus courte de connaître quelqu'un. C'est de m'asseoir et de me saouler la gueule avec lui, très vite, et tout ce qu'il va me sortir, tout ce qu'il va faire, et tout ce qu'il va commettre comme acte, ça va me prouver que dans le pire des cas, il ne va pas commettre plus que ça. Et si je l'accepte, c'est le chemin le plus court pour connaître quelqu'un et tout à fait tranquillement, on peut devenir copain très vite. Au lieu de se dire bonjour pendant une vingtaine d'années et après une fois s'asseoir pour voir qui a fait quelle saloperie. Il y a dans Boisson, dans cette méthode géniale que l'humanité a inventée, il y a une issue vers l'éternel, si vous voulez, vers un phénomène propre aux humains, c'est le désir de raccourcir le temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Et il y a tas de richesses humaines à connaître autour de nous. Et c'est pour ça que nous, on est persuadés que les Géorgiens ont inventé le vin, qui est passé par la Grèce, qui est arrivé par Rome, et maintenant en France, vous faites le vin commercialement palpable.
Ah, mais pour vivre, c'est vrai qu'il y a un amour de la vie qui se sent dans votre cinéma, et ça, c'est qui se sent beaucoup et très fort. Pour vivre urgemment, et ça, c'est bien. La communauté des ceux qui boivent et de ceux qui rêvent là dans le chaos, je trouve qu'elle passe très fort et qu'elle est très, très chaleureuse et humaine. Mais quand même, sur l'histoire comme ça, sempiternellement recommencée, je trouve qu'il y a quand même une aggravation, parce que les aristocrates, me semble-t-il, donnent des dégénérés, les dégénérés donnent des tortionnaires, et à la fin, la petite fille, qui finit par devenir un assassin. Ce sont les tortionnaires qui ont fabriqué les assassins. Les brigands se sont... Enfin, j'ai l'impression que dans cette histoire, c'est un cycle peut-être sans cesse renouvelé, mais il y a une aggravation quand même, une gradation.
Oui, parce qu'il existe une formule qui passe de génération en génération, c'est que les papas et les mamans étaient tout à fait cons, et que nous, on sait comment il faut vivre, nous, la nouvelle génération, les nouveaux venus. Et pour ça, on pense que tout ce qui était avant était tout à fait faux, tout à fait bourré d'erreurs. C'était pas le chemin emprunté. Pour ça, jusqu'aux années 50, chaque génération choisissait un chemin différent que leurs parents, en niant carrément l'expérience des autres. Aujourd'hui, ça s'est traduit par l'indépendance des gens tout jeunes. À partir de 16 ans, ils commencent à vivre tout seuls. Même il y a le mental dans la tête des parents qu'il faut que les enfants commencent à vivre indépendamment. Et il y a très très peu, un nombre restreint, des jeunes qui grandissent étant entourés par leur grand-mère, grand-père, parce que les parents sont très occupés, n'ont pas beaucoup de temps, mais c'est seulement les grands-parents qui peuvent leur apporter et la chaleur, et les sentiments, et la compréhension, leur compter les comptes, les conseiller. Ça veut dire qu'il y avait toujours un pont dans la société. Ce pont est en train de s'écrouler. Et pour ça, je pense que, oui, effectivement, on fait comme... Oui, il y a cette chaleur de vivre en famille, de génération en génération. Mais évidemment, ils sont chiants, les parents. Évidemment, ils sont chiants, les grands-parents. Évidemment, ils vous empêchent. Évidemment, ils vous interdisent. Évidemment, ils vous donnent des conseils. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, on est passé le cap. La lutte traditionnelle entre les enfants et les parents. C'est devenu la lutte contre le monde entier. Chaque génération qui arrive et qui s'installe dans ce monde-là est tout à fait déboussolé, étant tout à fait privé de soutien, étant tout à fait privé de conseils et de l'expérience des gens qui ont déjà vécu. Et moi, je pense que c'est dramatique. Et comme ça, dans ce film-là, ça se dégringole petit à petit, et ça se termine par quelque chose...
C'est la cérémonie. Et à la fois, on est chez Tati avec les effigies. Les effigies des bureaucrates, c'est exactement comme dans Playtime, à l'effigie du monde, c'est-à-dire, bon, ça c'est la bureaucratie étendue à l'image du monde qui donne la mafia. Et à la fin, c'est effectivement, on est dans le carnage et la cérémonie de Chabrol, c'est ça, quoi. Mais c'est une employée de maison qui finit par tuer tout le monde dans la baraque.
C'est l'histoire des bonnes de Genet.
C'est les bonnes de Genet, quoi.
C'est développé à aujourd'hui.
Ça se termine dans le carnage.
Oui, je pense que c'est le phénomène qui existe dans l'air. Je pense que tout à fait indépendamment. Les gens qui vivent à la même époque peuvent arriver à la même conclusion là, et utiliser les mêmes phénomènes qui sont à la porte de la main.
Chez vous, c'est plus universel, à mon avis, parce que ça dépasse le cadre de la Géorgie, du bilan de l'histoire de l'Union soviétique et de la Russie. C'est plus un humanisme qui tend à l'universel dans vos films en général et dans Brigands.
Universel, je ne pensais jamais. Mais moi je pense que j'appartiens à une mentalité d'un peuple qui a cette tendance tous les paysans ont tendance en Géorgie de généraliser, d'extrapoler, d'utiliser des proverbes, et de raconter les paraboles et de raconter les histoires drôles qui ont comme contenu quintessence d'essentiel de la vie. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai inventé ce truc-là, et tout simplement, très, très fidèlement, je suis la méthode de la pensée à laquelle j'appartiens.
Un peu plein de lyrisme et tout. Je pensais à quelqu'un comme Babel, Isaac Babel, qui lui aussi a travaillé dans le cinéma, qui a travaillé avec Eisenstein, qui a fait même des scénarios, et qui a disparu, on ne sait pas comment.
On connaît parfaitement bien comment il est disparu. Il était fusillé, tout simplement. Oui. Ah oui, mais c'était un des seuls, ce qui est très remarquable, un écrivain juif génial, raffiné comme tout, qui était dans l'armée, la terrible armée de Budionny. C'était la première armée de cavalerie. Et quand les purges ont commencé à Saint-Pétersbourg, déjà Leningrad, je pense, oui, sont venus les tchéquistes, les agébistes, pour l'arrêter. C'était seul qui a tiré à travers la porte. Et ils ont dit, oh, pop, ça, ils l'aimaient pas. Ils sont partis, là. Ils sont partis, mais évidemment, après, ils l'ont attrapé dans la rue. Mais de toute façon, normalement, si quelqu'un ripostait aux gens qui venaient l'amener en prison, eux, ils partaient, parce qu'il y avait plein d'autres. Un chopé, oui. Celui-là qui riposte. Là. Il y avait une très jolie anecdote, là. Quand Lyon promène dans la forêt, il rencontre les différentes bêtes, là, l'ours, le renard, le loup, et à chacun il dit que je te marque, tu vas venir chez moi, je te mange lundi. Celui-là, il disait que je te mange mardi, tu viens chez moi, et tout le monde était très triste. Et seul le lapin, il a dit que va te faire foutre. Il a dit, ah, en ce cas, je te barre.